Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tounzoï, Lucine Como, Boris Spino, Clémence Marie et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Nicolas Delmas, réalisation Guillaume Baldi. Autour de moi ce soir, Lucine Como, Jean-Christophe Brianchon, Florent Georgesco pour parler ensemble de Sud et Ouest de John Didion, paru chez Grasset. Des raisons de se plaindre de Jeffrey Eugenides aux éditions de l'Olivier, L'Enfant Rouge de Franck Venaille au Mercure de France et puis un coup de cœur, celui de Florent Georgesco pour les grands poèmes de Marina Tsvetaeva aux éditions des Sirtes. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Mirai et ma petite sœur, un film d'animation de Mamoru Hosada actuellement au cinéma. Et nous ouvrons cette dispute avec Sud et Ouest de John Didion, publié chez Grasset dans une traduction de Valérie Malfoy. Depuis le succès ô combien mérité, à mon goût, de l'année de la pensée magique, en France, les traductions de John Didion s'enchaînent, alors même que l'autrice vient de fêter ses 84 ans. Elle n'avait vu jusqu'en 2007 que deux de ses livres publiés chez nous. Depuis, ce sont pas moins de 8 titres qui sont devenus disponibles pour les lecteurs francophones. Le dernier en date, Sud et Ouest, est une compilation de deux textes que Didion n'a d'ailleurs publié, elle, que l'an dernier aux États-Unis. On verra qu'il s'agira de carnets, de notes, plus ou moins mises en forme. On va vous en dire plus.
You love me, it's I love you. Somewhere there's music, how near, how far. Somewhere there's heaven, it's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, still my heart, how high.
À la Nouvelle-Orléans, en juin, l'air est lourd de sexe et de mort. Pas la mort violente, mais la mort par déchéance, surmaturation, pourrissement, la mort par noyade, asphyxie, fièvre d'origine inconnue. L'endroit est physiquement obscur, obscur comme le négatif d'une photo, comme une radiographie. L'atmosphère absorbe sa propre lumière. Elle ne reflète pas la lumière, mais l'aspire si bien que des objets sans intérêt s'éclairent d'une luminescence morbide. Les cryptes au-dessus du sol dominent certains panoramas. Dans l'hypnotisante liquéfaction de l'atmosphère, tout mouvement se ralentit comme dans une chorégraphie. Tous les passants évoluent comme s'ils étaient suspendus dans une émulsion précaire. Et il n'existe plus, semble-t-il, qu'une distinction formelle entre les vivants et les morts. Un après-midi, sur St. Charles Avenue, j'ai vu une femme mourir, basculer par-dessus le volant de sa voiture. « Morte », déclara une vieille dame qui se tenait comme moi sur le trottoir, à quelques centimètres de l'endroit où le véhicule avait embouti un arbre. Après l'arrivée de la police, j'ai suivi cette femme à travers la lumière aquatique du parking du Pontchartrain Hotel et jusqu'au café-restaurant. La chose avait paru grave, mais banale, comme si cela s'était passé dans une cité précolombienne où la mort était attendue et où, en définitive, elle ne comptait guère. C'est le début. Alors du premier texte, j'ai dit qu'il fallait sans doute qu'on explique à nos auditeurs le premier texte qui est quand même le plus long, qui est celui qui concerne le Sud, on l'aura compris évidemment avec le début de ce texte. Peut-être expliquer, Florent Georgesco, d'où viennent ces textes, alors dans le temps et dans l'espace, presque faudrait-il dire.
Oui, alors dans le temps, on est au début des années 70, enfin en 70 même. John Didion part avec son mari pour une traversée du Sud. Je crois qu'elle reste à peu près un mois. Ils prennent une voiture, ils traversent. Ils vont un peu au hasard. Son but est d'écrire un article. Donc elle a son carnet de notes. Elle a aussi un enregistreur. Elle rencontre pas mal de gens. Elle enregistre des conversations. Et comme comme on l'entend déjà dans l'extrait que vous avez lu, elle note tout ce qu'elle voit. Et donc, au départ, il y a un voyage, il y a un carnet de notes, il y a un projet d'article. Cet article ne sera jamais écrit. Elle a choisi de ne publier ça que l'an dernier. Et manifestement, quand on lit, alors le texte n'est pas tout à fait présenté dans sa nature réelle, en fait. On le présente comme le carnet de notes de l'époque, c'est pas tout à fait vrai. Il est évident, on le voit, des indices clairs au long du livre, qu'elle a retissé tout cela, qu'elle écrit par-dessus ses notes, qu'elle rassemble ses notes et qu'elle écrit là-dessus. Elle dit à plusieurs moments, tel souvenir que j'ai pris à ce moment-là traîne dans mon armoire depuis l'époque et a eu le temps de jaunir. Donc il y a, voilà, ce texte est repris quelques années après, le temps que les documents jaunissent. Bref, ce sont les notes d'une reporter qui part avec une idée vague, et c'est peut-être une des forces de ce texte-là. On pourra parler peut-être plus tard du deuxième, l'Ouest.
Très
mais,
court. Hein,
mais voilà, c'est 20 pages.
Vraiment très court.
C'est la Californie, c'est plus centré sur sa vie. Là, on est dans son vrai travail d'écrivain du réel, d'écrivain reporter, qui est, elle est, pour resituer un peu Didion par rapport à ce travail-là, elle est une des représentantes les plus brillantes de ce qu'on appelait le nouveau journalisme, du gonzo, du journalisme de l'implication, du terrain et de la sensibilité, c'est-à-dire du point où le journalisme rencontre la littérature. Et ce qui est passionnant dans ce texte, c'est justement qu'avec la grande ouverture du spectre qu'elle se permet en arrivant là-bas, c'est-à-dire elle veut quoi ? Elle veut connaître ce monde étranger qu'est le Sud, elle veut avoir une idée de la manière dont vivent ces gens qui, au fond, à elle, californienne, et surtout californienne de la contre-culture, californienne qui, à ce moment-là, on est dans l'esprit des années 60, représente la pointe la plus avancée du mouvement de la société américaine. Elle veut aller voir ceux qui sont restés le plus immobiles. Et ce texte qui pourrait être tout à fait anecdotique et assez extraordinaire pour moi sur deux plans, on y reviendra, d'abord parce que la présence d'un écrivain, d'un très grand écrivain est évidente pour moi à chaque page. Elle a un art de faire vivre chacune des notations, elle a un art de faire vivre les gens qu'elle raconte qui est extraordinaire. Et par ailleurs, c'est un document sur la société américaine qui, comme le préfacier d'ailleurs le souligne très bien, est parfaitement actuel par rapport à l'Amérique de Trump. En tout cas, elle parle de quelque chose qui est profondément actuel, qui est la division absolue de la société américaine, qui est l'écart qui est ici géographique, comme le titre le rappelle, mais qui est beaucoup plus profondément un écart dans le mode de vie, un écart presque anthropologique entre les types d'humanité qui se rencontrent aux États-Unis. Et ça me paraît en plus assez actuel, y compris pour l'ensemble des sociétés occidentales, et peut-être particulièrement en ce moment pour la société française. Je trouve que c'est assez frappant, c'était assez frappant pour moi de lire ce petit livre jaune, puisqu'on est chez Grasset, dans ce mois de décembre français, où justement on a peut-être nous aussi vu que notre société était composée de gens qui ne savent peut-être plus très bien ce qu'ils font ensemble. Et c'est ça qu'elle raconte et c'est ça qui rend le livre passionnant.
Au premier regard de Lucille Como sur Sud et Ouest, John Didion.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Florent. J'ai noté assez vite dans ma lecture cette espèce d'actualité, évidemment, de la description d'une Amérique scindée et évidemment de la France. C'est même assez troublant. Il y a un moment où elle dit dans le sud des États-Unis, la guerre de sécession paraît plus proche que les années 60. Et ce rapprochement-là, cette espèce de bond dans le temps, on le vit aussi en la lisant aujourd'hui. C'est assez troublant. Et moi, en continuant un peu ce que disait Florent, en effet, c'est un projet dont on sent qu'il est construit parce qu'il y a une telle densité de textes. On sent en fait comme ça pourrait s'ouvrir, à quel point toutes les choses vues qui reviennent, d'ailleurs il y a des obsessions, les serpents, les enfants qui jouent pieds nus dans la poussière, pourraient être développées et ça pourrait devenir une sorte d'arbre. Elle parle beaucoup de végétation, mais une végétation absolument gigantesque. C'est assez émouvant même de lire des notes de ce point de vue-là. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est la posture, et je rebondis aussi là sur la question de l'éthique et même de la politique, la posture dans laquelle elle se pose et qui en effet rappelle ce journalisme qui n'existe pas vraiment en France et qui n'existe plus tellement aux États-Unis, où on parle en tant que soi, en raccrochant l'expérience même la plus étrangère et la plus étrange à sa vie intime. Il y a beaucoup de notations de sa vie, d'ailleurs très souvent en fin de paragraphe, comme s'il y avait toujours besoin de ramener l'intime à la fin des notations. C'est assez je trouve assez révélateur de ça. Et cette posture politiquement très difficile à tenir de l'étrangeté absolue, l'archaïsme, le mépris qu'elle peut avoir parfois pour ses interlocuteurs, et en même temps, cette espèce de respect absolu de vouloir retranscrire absolument toute la complexité, toute l'ambiguïté des propos. Je pense à un personnage qu'elle rencontre qui fait l'objet d'un très long paragraphe, qui est un homme de radio, qui dirige une chaîne de radio qui d'ailleurs s'adresse à 80%, dit-il, à des personnes noires, ouais. Voilà, parce que c'est de la musique
soul. Et lui
soul,
est blanc,
et que lui est blanc, voilà. Et il explique en quoi le Sud, pour lui, est l'avenir des États-Unis, parce que c'est un terreau pour l'entrepreneuriat. Et c'est drôle, parce qu'on voit très bien comment elle le retranscrit à la fois, et c'est très dur à tenir, dans une forme d'honnêteté intellectuelle absolue et de doute, pas vraiment de l'ironie, ou alors c'est une ironie assez douce, mais en tout cas de mise à distance qui est à mon avis fondatrice de son travail de journaliste. Donc en fait on voit à la fois un travail littéraire qui se fait, et c'est extrêmement intéressant quand on est lecteur de voir les prémices de quelque chose, et en même temps on voit comment se construit un éthos de journaliste dans ce livre-là.
Juste une parenthèse pour insister, non mais pour donner encore plus raison.
J'entends bien, mais
ouais, non
juste la parole.
Ce personnage d'homme de radio est extraordinaire, parce que il dit à un moment, vous savez, les choses progressent avec dans les relations entre les blancs et les noirs. Il dit je ne recevrai sans doute pas un pasteur noir à table, mais enfin tout de même les temps changent, et l'apparent optimisme de ce type sur la question des conflits raciaux donne un instantané de cette question qui est assez saisissant.
Et il dit que dans sa ville, de mémoire, il y a 4 ou 5 foyers où on pourrait avoir ce genre de conversation, alors qu'avant il y en avait 0.
Oui.
Ce qui évidemment
c'est un grand progrès
absolument énorme. Je voulais citer aussi, avant d'en donner la parole à Jean-Christophe Briançon, la phrase à laquelle faisait référence Lucille Comeau: distorsion temporelle, 2. La guerre de sécession, c'était hier, mais on parle de 1960 comme si c'était il y a 300 ans. C'est aussi cette rapidité du style qui est importante à souligner pour John Didion. Jean-Christophe Briançon sur Sud et Ouest.
Oui, bah justement, vous parlez de la rapidité du style. Et moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus intéressé, c'est de voir dans ses notes ce que contient ou ce qu'ont pu contenir par la suite tous ces livres et tous les livres d'autres auteurs qu'on a pu aimer, comme on en parlait la dernière fois qu'on a parlé de John Didion à propos de Mauvais Joueur il y a quelques semaines, une littérature qui a évidemment beaucoup influencé les années 80, 90, et on retrouve là, ici, dans ces notes-là, aussi simples parfois puissent-elles être, tout le style fondateur qu'a créé par la suite une certaine littérature, par effectivement cette rapidité, des phrases très courtes, très acérées, avec effectivement une acuité intellectuelle vis-à-vis de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, qui est particulièrement remarquable. Je pense que c'est particulièrement intéressant à voir et à lire pour des gens qui aiment John Didion et cette littérature à laquelle elle a entre autres elle donné naissance par la suite. Après moi j'ai des réserves à mettre plus sur le, alors j'allais dire sur le plan moral, mais c'est pas forcément le bon terme, mais c'est qu'en tout cas cette position qui est la sienne d'entomologiste, un petit peu comme ça, de l'auteur qui se balade, l'auteur californienne qui se balade un petit peu dans les bas-fonds des États-Unis, m'a dérangé, dans le sens où j'ai pas toujours ressenti, contrairement à ce qu'a pu dire entre autres Lucille, j'ai pas toujours ressenti cette tentative ou cette objectivité, cette rigueur intellectuelle, on va dire, qui pourrait être la sienne, celle de la journaliste qu'elle était vis-à-vis de ce qu'elle voyait. Je trouvais que contrairement à ce qu'elle peut nous dire au début du livre, à un instant donné, elle nous exprime qu'elle va essayer en quelque sorte de voir le mieux possible, le plus objectivement possible, ce qu'elle va voir dans ce sud des États-Unis. Et je ne pense pas qu'elle y parvienne. Je trouve que toujours, mais c'est aussi ce qui fait qu'elle a participé à la naissance de ce Gonzo journalisme dans les années 70, c'est que toujours elle se retrouve à ne donner le point de vue de personne d'autre finalement que d'une Californienne, que de cette Californienne là qui se balade dans ce sud des États-Unis là, et qui, quoi qu'elle fasse finalement, ne parvient pas réellement à nous donner à lire autre chose que ce qu'on d'une certaine manière veut lire, nous, lecteurs de John Didion, qui sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, un petit peu John Didion, en tout cas, qui sommes nous-mêmes, qui nous rattachons, en tout cas, un petit peu à la même tranche socioculturelle qui est la sienne. Et donc, finalement, que lit-on d'autre que ce qu'on veut lire de cette Amérique un petit peu voilà, de cette Amérique dégueulasse et un petit peu, je sais plus comment elle nous le dit, à un moment elle nous parle d'une terre maudite, hein, pour parler de ces bas-fonds, des bayous du sud américain. Je trouve que finalement on s'y trouve bien, parce que stylistiquement elle le fait, mais on s'y trouve parce qu'elle voulait s'y trouver et que nous voulons nous y trouver dans cette Amérique-là. On ne veut pas. Est-ce qu'on veut en voir une autre? Je ne suis pas sûr.
Alors, si je partage un doute sur le livre, c'est effectivement sur la nature même du livre, en effet, parce que c'est vrai que la publication de notes, même remaniées, avec une longue préface et puis un texte qui rajoute, ça fait un volume. Bon, moi j'ai quelque chose qui est quand même pas tout à fait net, même si je suis tout à fait passionné par John Didion. Et c'est vrai qu'au début de la lecture de ce texte, j'étais un petit peu agacé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait les fonds de tiroir parce que, voilà, elle vend beaucoup, ça se passe bien. Et puis bon, j'avoue qu'au fur et à mesure de ma lecture, j'ai commencé à sentir une certaine épaisseur, Je pense que quand même il y a une construction qui va dans ce sens-là, et la question noire devient enfin vraiment la question centrale de ce livre-là, et donc sorti aussi aux États-Unis après Black Lives Matter. Enfin, il y avait tout ce mouvement-là. Donc j'imagine bien que c'est aussi pour ça que ce texte fait surface.
C'est l'élection de Trump qui a donné envie.
Et Black Lives Matter va aussi avec ça. Mais c'est vrai que ce que j'entends, c'est que il y a une formidable matière dont d'autres auteurs, enfin elle, mais d'autres auteurs, je pense à Joyce Carol Oates, qui a écrit énormément de romans sur qui ont pour toile de fond ce sud américain profond, la question du racisme, etc. Enfin, les livres sont nombreux, et ça prend une autre dimension. Là, on est quand même, en effet, dans une sorte de gonzo que moi j'aime particulièrement, mais je doute un peu de la nature même du livre. Lucille Comeau.
Oui, je comprends vos doutes. Moi, je les ai eus sur un autre plan, mais ça rejoint ce que vous avez dit, Jean-Christophe, qui est qu'en effet, elle nous donne une matière au départ, notamment avec ces images que j'ai un peu citées tout à l'heure, qui sont des images qui sont tellement investies par la fiction américaine, mais même depuis, elle cite Autant n'emporte le vent, ouais. Le cinéma, jusqu'à, elle parle de Faulkner, évidemment, il y a un moment où elle cherche la tombe de Faulkner. Mmh. D'ailleurs, elle ne la trouve jamais. Qui sont tellement ancrées dans notre imaginaire et dans notre pratique de la fiction américaine, qu'il peut y avoir au départ quelque chose d'un peu rebutant à les avoir à nouveau devant soi. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, je ne suis pas d'accord, vous dites balade, elle ne se balade pas. Il y a même un moment où elle dit je ne me rapproche pas des villes parce que si je me rapproche trop, je vais avoir envie de prendre le premier avion pour Los Angeles. En fait, elle s'impose quand même, et c'est là que je reparle d'éthique, une discipline qui est un vrai projet littéraire et journalistique. Mmh. Et il y a un passage qui est très intéressant. Elle va dans un café, elle est sur la route, dans une station-service, et elle commande, je ne sais plus ce qu'elle commande à manger, mais en tout cas, elle détonne tellement que personne ne parle, il y a quelques clients, et que tout le monde la regarde, et tout le monde la regarde sortir. Et en fait, c'est autant Joan Didion qui regarde le Sud que le Sud qui regarde.
C'est
et
très
qui,
souvent
coup,
dans le texte.
Nous
ça.
Regarde ouais. nous. Et de ce point de vue, j'en reviens à la charge politique de ce texte, qui est vraiment énorme. En effet, pour nous, entre guillemets, élite, c'est que ça nous regarde vraiment et que ça nous bouscule profondément, de la même manière que ça la bouscule elle.
C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, elle n'a jamais cherché à atteindre une sorte d'objectivité. C'est nécessairement conflictuel et c'est ça qu'elle racontait. La réciprocité de l'étonnement est en effet un fil rouge dans le livre et est assez impressionnante. Vous savez, il y a aussi cette scène dans un dîner où un type lui dit j'ai lu un papier de vous sur les hippies. Personne ne vous a protégé. Ça a choqué personne autour de vous que vous alliez au milieu de ces dépravés. Et elle dit, mais de qui parlez-vous? Qui pouvait me protéger? Et il lui dit, mais vous n'avez pas un mari.
Votre mari. Mais elle ne porte pas d'alliance en plus, la coquine.
Et bon, c'est une certaine conception du mariage. C'est-à-dire que les oppositions culturelles qu'elle met en scène, c'est ça le sujet. Elle ne va pas, et je crois que c'est même pas une différence entre élite et peuple. Les gens qu'elle va voir sont d'énormes planteurs, richissimes, beaucoup plus qu'elle qui...
Élite intellectuelle,
Oui,
mais c'est intellectuel qui met ses enfants à l'école privée, même si c'est évidemment contraire à ses principes, parce que quand même, on va pas ruiner la vie de nos enfants, etc. Qu'on entend, quoi.
Et cette différence-là, cette dichotomie-là est de toute façon structurelle dans ce livre, puisqu'elle constitue même la manière dont le livre a été, si ce n'est écrit, en tout cas édité, Sud et Ouest, enfin, c'est le « eux » et le « nous ». Et le E et le nous et l'objet même du livre,
parce qu'il est la structure sociale profonde des États-Unis.
Et il est dialectique, c'est-à-dire que ça circule en permanence.
Il n'y a rien d'autre. Juste un petit mot sur ce qu'elle dit sur les aéroports, à un moment, est très intéressant, parce qu'en fait, elle choisit d'aller dans les villes qui sont les plus loin des aéroports, chez des gens qui ne bougent pas. Et là, c'est pas une question de jugement moral. Pour le coup, elle ne dit pas ces gens incarnent le mal. C'est pas une question de raciale ou de genre qui sont très présentes dans le livre, mais il y a autre chose aussi. Il y a cette immobilité. Et à un moment, elle rencontre des filles. Elle va chez une manucure et la manucure, à un moment, lui dit :« J'en ai encore pour une année de lycée. Ensuite, je me tire. » Je lui demandais où elle allait se tirer, Birmingham. J'ai regardé sur la carte, c'est à 120 km de l'endroit où on est. Un jour, la grande vie, c'est de se tirer à 120 km de là. Et elle sait que si elle s'approche d'un aéroport, en effet, elle traverse les États-Unis ou le monde. Il y a des différences extrêmement profondes dans le livre, au-delà même des oppositions idéologiques, et autour notamment de cet axe de l'immobilité et de la tâche de l'immobilité dans le temps, dans l'histoire, dans les traditions et dans le mouvement géographique, qui sont là aussi des choses qui reste absolument valable dans nos sociétés. Et c'est une loupe passionnante sur ce point-là.
Bon, on n'aura pas parlé de deuxième texte, très court. Mais ce sera l'objet d'une prochaine dispute, bien sûr. Sud et Ouest.
Ce sont des souvenirs sur la Californie.
De John Didion, on va dire ça comme ça. Publié chez Grasset dans une traduction de Valérie Malfoy. À suivre dans la dispute, Jeffrey Eugenides, Frank Venaille et Marina Tsvetaeva.
La dispute, France Culture. La porte.
Suite de cette dispute littéraire avec des raisons de se plaindre de Jeffrey Eugenides, publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction d'Olivier de Paris. Chaque nouveau livre de Jeffrey Eugenides est un événement depuis son premier roman Virgin Suicides en 93 jusqu'à ce recueil de nouvelles paru l'an dernier aux États-Unis. Il faut dire que l'auteur américain n'a publié que 3 romans en 20 ans et un seul recueil de nouvelles, donc celui dont nous allons parler ce soir. La recette était arrivée par la poste. Mélanger la semence de 3 hommes, bien remuer, transvaser dans une poire à jus, s'allonger, insérer l'extrémité de la poire à jus, presser. Ingrédients, une pincée de Stu Wadsworth, une pincée de Jim Friesen, une pincée de Wally Mars. L'adresse de l'expéditeur ne figurait pas sur l'enveloppe, mais Thomasina connaissait son identité. C'était Diane, sa meilleure amie, récemment devenue sa consultante personnelle en fertilité. Depuis la dernière rupture catastrophique de Thomasina, Diane préconisait ce qu'elle appelait le plan B. Le plan A, elles y avaient déjà consacré pas mal de temps. Il impliquait de l'amour et un mariage. 8 bonnes années qu'elles étaient dessus. Mais en dernière analyse, ça c'était tout le discours de Diane, ce plan-là s'était avéré beaucoup trop idéaliste. Désormais, elles envisageaient donc de passer au B. Le B était plus retors et inspiré, moins romantique, plus solitaire, plus triste, mais également plus courageux. Il s'agissait de trouver un homme doté d'une dentition, d'un corps et d'un cerveau correct, vierge de toute maladie grave et qui soit prêt à recourir à ses fantasmes, sans qu'ils incluent nécessairement Thomasina, afin de produire la petite giclée indispensable au prodige de l'enfantement. Telles des jumelles Schwarzkopf, les deux amies observaient les dernières évolutions du champ de bataille. La réduction de leur artillerie, toutes deux venaient d'avoir 40 ans, la tactique de guérilla, de plus en plus utilisée par l'ennemi, les hommes n'agissaient même plus à découvert, et la disparition totale du code de l'honneur. Le dernier qui avait mis Thomasina enceinte, pas le banquier d'affaires, celui d'avant, le prof de technique Alexander, n'avait même pas fait semblant de proposer le mariage. Son idée de l'honneur se limitait au partage du coût de l'avortement. Il fallait voir les choses en face, les meilleurs soldats avaient quitté le terrain en profit de la paix maritale. Ne restait qu'un ramassis d'amants infidèles et de paumés, des attaquants éclairs, des brûleurs de village. Thomasina devait abandonner l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui passer sa vie. Au lieu de cela, il lui fallait donner naissance à quelqu'un qui passerait la sienne avec elle. « Alors j'ai voulu choisir un extrait un peu drôle d'une des nouvelles de Jeffrey Eugenides et en la lisant à l'instant, je me dis qu'elle est aussi sinistre que tout le reste de ce recueil de nouvelles. Sinistre, évidemment, dans, je le dirai tout à l'heure, dans le très bon sens du terme. Et c'est Lucille Gaumont qui commence à nous parler de ce recueil de nouvelles, des raisons de se plaindre.
Moi, j'ai beaucoup ri quand même, je crois, à la lecture de ces nouvelles.
Moi aussi, mais...
qui sont très éparses dans le temps. En effet, il y en a même une qui date d'avant l'écriture de Virgin Suicides, 88. Et en même temps, elles ont une vraie grande cohérence thématique. En dehors peut-être de la première, c'est d'ailleurs assez intéressant d'avoir commencé par une nouvelle dont les deux héroïnes sont féminines et qui est vraiment une sorte de récit d'émancipation, même si la fin reste assez mystérieuse, de deux femmes âgées, on va dire ça comme ça, dans la nature. En l'occurrence, toutes les autres ont plutôt des héros, entre guillemets, plutôt des anti-héros masculins, des hommes qui sont un peu tous de la même trempe, donc blancs, un peu post-40 ans, appartenant à la bourgeoisie, souvent intellectuelle. Il y a un musicologue, il y a plusieurs professeurs de faculté, il y a un éditeur, des fils de famille, enfin, c'est vraiment ça, sa cible, enfin sa source ou sa cible, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des récits de déclin. En fait, on a à la fois une typologie masculine et une typologie décliniste. Il y a plusieurs types de catastrophes. Bon, ça peut aller du petit fiasco, de la petite déception amoureuse à vraiment la déliquescence économique la plus aboutie. C'est assez troublant de les lire les unes à la suite des autres assez rapidement. Je ne sais pas comment vous les avez lues, mais en tout cas, moi, je les ai lues très, très rapidement. Et en effet, il y a un effet assez déprimant et en même temps jubilatoire. Alors, je ne sais pas s'il faut attribuer ça au fait que moi, je sois une femme, mais pour moi, ça crée une sorte de panorama assez jouissif des fameuses raisons de se plaindre qu'ont ces hommes auxquels vous appartenez, je crois, qui ont tous plus de 30 ans, allez, on va dire, pour Jean-Christophe, et qui se plaignent régulièrement alors même qu'ils ont tout depuis des centenaires, des décennies et des millénaires. Donc, il y a quelque chose d'assez jouissif. En même temps, c'est vrai que c'est... Bon, on va en parler, hein, il y a quelque chose de son style qui est en même temps très classique, mais dans un sarcasme qui va très loin, avec notamment des motifs qui reviennent beaucoup. Vous avez lu le début de cette nouvelle, donc avec les mentions du sperme mélangé de trois hommes. Il y a aussi beaucoup d'urine, beaucoup de sécrétions diverses, qui sont justement à la fois des preuves de la virilité et des preuves de la masculinité fragile.
Jean-Christophe Brianchon, en tant que mâle fragile.
Bah alors, c'est amusant qu'on ramène ce livre à ça. Enfin, l'éditeur, je l'ai pas pris comme ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être un signe, mais
qu'est-ce que vous pensez de ces portraits
de
femmes?
La révolte, Jean-Christophe Brianchon. L'éditeur le présente ainsi, enfin le présente comme étant un livre nous parlant de la gente masculine. Et bon, Lucille également. Moi, je l'ai pas du tout pris.
Qui n'est pas l'éditrice a priori. Hein. Non. J'avais pas lu la quatrième de couverture.
Non, mais elle s'entendrait bien avec, peut-être.
Et en somme, il nous ressemble. Ça veut dire que c'est fait pour un lectorat masculin.
Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Et c'est aussi parce que bon, alors il y a plusieurs choses qui me font dire ça. Bon, c'est déjà que contrairement d'ailleurs à John Didion, je trouve que cet auteur a la capacité remarquable de faire preuve d'une empathie absolument effroyable envers ses personnages. Qui bah oui, parce que ça en devient triste pour lui et pour nous. Et c'est aussi ce qui rend ces nouvelles particulièrement sinistres aussi. C'est parce que l'empathie est telle que de toute façon cette petite médiocrité, quand elle est petite, ou la plus grande, parce que souvent, effectivement, il s'agit de petites médiocrités du quotidien. Bon, et cette petite médiocrité qu'on leur excuse, qu'on s'excuse à nous, semble quasiment insurpassable. Cette empathie-là nous montre que, de toute façon, on ne peut qu'être empathique vis-à-vis de cette médiocrité-là. Et donc, ça a mis, pour moi, ça englobe ce roman, enfin, ces nouvelles, dans une dynamique assez universelle. De la même manière aussi, enfin... Bon, je pense que j'ai du mal à l'édicter, mais je pense qu'il y a cette empathie là qu'il a, mais il y a aussi comment dire. Je pense qu'il a un rapport à ces personnages qui nous amène de toute façon essentiellement à nous identifier. Enfin, voilà, globalement, c'est ça, qui nous amène de toute façon à nous identifier et à être incapable de les détester de toute façon. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être n'importe qui. Moi, je me sens pas du tout visé. J'ai pas du tout l'impression que ce livre me parle de la gente masculine, ni des femmes, ni des hommes. Ça nous parle de nous.
Bon, je crois qu'on n'a pas lu le même livre non plus. Florent Georgescu.
C'est-à-dire.
Quel livre avez-vous lu?
En tout cas, j'ai lu la quatrième de couverture. Et c'est vrai qu'elle, je la trouve tout à fait fausse, mais c'est pas, elle n'est pas dans le sens de ce que disait Lucille. Parce qu'elle est moralisatrice. Elle dit les hommes sont mauvais dans ses nouvelles. Je ne vois pas en quoi, sincèrement. Ils ont des malheurs, comme tout le monde, voilà tout. Ils entraînent parfois les femmes qui vivent autour d'elles, autour d'eux, dans leurs malheurs, certes. Enfin, c'est des malheureux. Peu importe. Je sais pas, du coup, en quoi ça concernerait les relations hommes-femmes d'un point de vue moral. Mais bon, peu importe les quatrièmes de couverture, en effet. D'ailleurs, sont-ils toujours si médiocres, ces personnages? Je ne suis pas sûr que ce soit toujours ça.
Bah non.
Il y a une nouvelle absolument extraordinaire pour moi qui s'appelle « Musique ancienne ». Qui est merveilleuse de grâce, de charme et d'une beauté des personnages. Donc l'histoire de ce type qui est musicologue, qui a joué du clavicorde, il a même fait une tournée en Allemagne un jour, qui n'a pas débouché sur une carrière prodigieuse. Il a acheté un clavicorde ancien qui l'endette et le met au bord de la faillite, pendant que sa femme fabrique des souris. Alors c'est un peu compliqué techniquement. Voilà, micro-ondable. Si vous mettez ces souris en tissu dans un micro-ondes, un parfum se dégage. Voilà, des parfums différents. Et elle a décidé de faire de sa vie, de consacrer sa vie à fabriquer ces souris. Et il y a dans le duo de ces personnages, qui sont d'ailleurs dans une parfaite égalité, c'est pas quelqu'un qui entraîne quelqu'un d'autre. Enfin, tout n'est pas causalité, tout n'est pas accusation, quoi. Et loin de là, dans ce livre, il y a une sorte de grâce poétique, de légèreté au fond dans le malheur. Il y a quelque chose, comme toujours dans ces nouvelles, de très angoissant. Mais il y a, on aboutit, et d'ailleurs la fin est extrêmement belle à cet égard, à quelque chose d'aérien au fond dans l'acceptation de la marginalité absolue, qui est pour moi plus, enfin, la tonalité que je retiens plus dans ce livre. Il faut dire que j'ai le sentiment que le livre est assez inégal. Et c'est en effet des nouvelles écrites sur 30 ans à peu près, puis ça, les premières datent des années 80. C'est assez beau de voir progresser cet auteur. Je trouve vraiment que ses nouvelles les plus récentes, la toute première qui est magnifique aussi, ces deux femmes.
Les râleuses,
qui est un portrait, qui est une histoire d'amitié, une histoire aussi de vie quasiment ratée, de vie au bord de l'effondrement, mais qui au fond se tiennent, et se tiennent par l'amitié. Là, il y a une simplicité, une amplitude dans la nouvelle, alors que dans ces nouvelles plus anciennes, il y a un côté un peu capillotracté, un peu de complications parfois inutiles dans le récit. Il y va un peu plus à l'épate. On voit bien que les nouvelles servent aussi à ça. D'ailleurs, ils publient ça dans le New Yorker, dans des grandes revues, grands magazines. Il y a un peu de frime dans la complication. Je suis pas sûr que la nouvelle de la poire et des spermes mélangés ne se perde pas par moment dans des trucs un peu inutiles, un peu inutilement compliqués. Mais il y a une force dans certaines, et dans la première nouvelle, par exemple, dans celle du clavicorde ou quelques autres, qui est vraiment très impressionnante et qui va très au-delà de la question de la médiocrité de la vie humaine. C'est juste une vérité assez intégrale de la vie humaine où on affronte tous les aspects. Simplement.
Mais alors moi, il m'en manque deux ou trois. J'ai pas eu le temps de finir le recueil en entier, mais il me semblerait, moi, plutôt que ce sont toujours, enfin, dans celle que j'ai lue, des petites victoires ces récits. Bah oui, parce que vous voyez, non, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas lu le même livre, et c'est ça qui est drôle. c'est que effectivement quelque chose de vraiment déprimé, qui va pas, enfin, il y a quand même des obsessionnels, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui se livrent qui font des choses sur des coups de tête, etc. Mais il me semble que toujours à la fin, il y a quand même, il y a une lueur, il y a quelque chose qui advient et qui est une réussite.
Je suis tout à fait d'accord. Dans l'acceptation, notamment dans l'acceptation.
Ça peut mener une action. Enfin, c'est râleuse, on verra. Moi, je trouve pas cette fin mystérieuse du tout. multipropriété, ouais, je trouve que, si, justement. Alors, le c'est comment dire, mettre quelques mots encore.
La dernière phrase de cette nouvelle est absolument magnifique.
Oui. Ben oui, mais
elle est dans une tonalité de de sérénité. En tout cas.
Qu'est-ce que ça raconte sur nous,
alors,
notre
moi, ça
lecture
me vraiment beaucoup, beaucoup.
Nous, on trouve tout ça absolument normal. Hein.
Ah ouais, c'est ça, en fait.
Non, plutôt encourageant.
Vous avez accepté vos raisons bonnes.
Non, c'est plutôt accepté la destruction.
C'est plutôt encourageant, c'est peut-être parce que nous sommes les plus âgés, Florent.
Ah
oui,
nous
sommes des puits de sagesse, cher ami.
Non, justement, non, mais en parlant de sagesse, moi, il y en a une que je trouve très intéressante, justement, sur la question de l'ambiguïté des fins. C'est celle qui s'appelle Par avion, qui est une sorte d'expérience absolument, mais ratée jusqu'à la... Ou alors, oui, peut-être sublime de rater. Ah si, moi, je pense que c'est raté d'un mystique par un petit bourgeois qui est parti en Thaïlande, qui a une carte de crédit que ses parents lui ont donnée au cas où il devait rentrer, et qui est malade, et donc du coup il se dit ah bah je vais jeûner, puis il s'encourage lui-même. Mais moi, pour moi, c'est
à laquelle il atteint est réelle.
Ah non, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que la fin est terrible et qu'elle dit
beaucoup. Elle est terrible à partir du moment où
toute la fin et de tous les échecs de tous les personnages.
Cette histoire est racontée. Si cette histoire n'est pas racontée, elle n'est pas ridicule. Elle est vécue par un homme qui vit ça, qui de toute façon le vit au premier degré et effectivement atteint une mystique.
Une mystique de la destruction, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a des mystiques
mais il
n'en
a pas conscience, donc du coup, je ne suis pas sûre que ce soit une mystique assumée.
Moi, je crois qu'il
destruction.
En a pleine conscience. Le dernier mot, vraiment,
juste
Lucille Comeau.
Sur la question morale, je ne suis pas tout à fait non plus d'accord avec vous, Florent, parce que je pense qu'elle existe, même si elle est extrêmement mise à distance. En effet, il n'y a pas de regard moral sur les personnages, et c'est heureusement, parce que ce serait complètement inintéressant. Ouais. Mais il y en a une qui s'appelle À qui la faute, et c'est une question qui revient en permanence. Oui. Et c'est une forme de, quand même, regard un peu moraliste, de même. D'avoir choisi la forme de la typologie sur la morale.
Et la morale, c'est qu'il n'y aura pas de réponse de Florent Georgesco. Des raisons de se plaindre.
De l'observation de
la recueil de nouvelles.
Non, certes.
Recueil de nouvelles de Jeffrey Eugenides, publié aux éditions de l'Olivier, dans une traduction d'Olivier de Paris, mais personne ne vous a entendu.
Bon, alors.
Et justement, c'est Florent Georgesco qui a la parole, parce que c'est son coup de cœur. Vous voyez, c'est pour vous faire plus de temps que j'étais obligé d'interrompre ce débat passionnant sur notre lecture, nos lectures croisées de Jeffrey Eugenides.
Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour ce
parler
coup
de des grands poèmes de Marina Tsvetaeva aux éditions des Sirtes.
Parce que c'est juste une évidence, je ne voulais pas qu'on finisse cette année sans avoir évoqué ce grand événement éditorial, puisque peu à peu, l'ensemble de ce qu'il reste de l'œuvre de Tsvetaeva est enfin traduit. La plupart des poèmes de cet énorme volume de 1000 pages étaient inédits en français, donc c'est tout de même extraordinaire qu'il ait fallu attendre 2018, et donc célébrons cela. Il s'agit, pour le dire vite, ce qu'on appelle les grands poèmes. Chez elle, c'est par opposition notamment à sa poésie lyrique, ce sont les très longs poèmes, souvent narratifs, parfois tirés de sujets folkloriques, parfois autobiographiques, c'est un art narratif extraordinaire à travers la scansion propre à Tsvetaeva, la décomposition de la langue, si on peut dire, par le rythme qui lui est propre, et voir cette prosodie à l'œuvre dans ces très grands récits que sont les grands poèmes est absolument extraordinaire. En fait, on voit peut-être encore plus fortement que dans la poésie lyrique, où il y a une sorte de congruence entre la forme, enfin entre tous les aspects de la forme. Là, il y a une sorte de lutte entre le récit et le rythme qui fait ces œuvres de très très grandes œuvres, évidemment. Donc c'est merveilleux d'avoir de pouvoir découvrir ça aujourd'hui, et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à la traductrice, l'extraordinaire traductrice de ce volume, qui est Véronique Loski, qui, hélas, est morte cette année. Elle avait consacré toute sa vie, enfin depuis des décennies, à Tsvetaeva, et c'est une sorte de couronnement de ce travail magnifique, et donc il fallait, je crois, le célébrer.
Absolument, célébrer ces grands poèmes de Marina Tsvetaeva. On peut le trouver donc aux éditions des Sirtes.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le dernier sujet de cette dispute, c'est L'enfant rouge de Franck Venaille, publié au Mercure de France. D'abord, dire une chose que la quatrième de couverture de ce livre ne mentionne pas, et pour cause, l'auteur est mort le 23 août dernier, alors que ce livre était déjà imprimé. Alors, je suis heureux aussi de cette occasion de parler de Franck Venaille, que j'ai bien connu. dans mes premières années à France Culture, puisqu'il était un producteur plus que régulier des Nuits Magnétiques, où je travaillais alors. C'est vrai qu'il est davantage connu pour son œuvre poétique, pour laquelle il a reçu de très nombreuses récompenses. Franck Venaille a aussi livré plusieurs textes, on va dire en prose libre, comme ce dernier livre, L'Enfant Rouge, qui revient sur les jeunes années de l'auteur, dans le 11e arrondissement de Paris, rue Paul Bert, on va en parler beaucoup. Un moment de sa vie où beaucoup de choses semblent basculer. L'odeur de la ville tout entière parvient jusqu'à nous, les disgraciés. Demain sera dimanche. Il échappe à cette médiocrité générale dénoncée dans un tract par la jeunesse communiste. Père, je vous ai aimé tragiquement, c'est-à-dire à travers mes larmes. Et qu'en est-il du combat des mots? Je me nomme Franck Venaille et je sais que mon enfance m'attend dans cette rue Paul Bert, proche, si proche du bazar rouge que je salue. Ça, je me souviens parfaitement de ce vaste entrepôt que, de mémoire, je situe entre la rue de Cîteaux et le faubourg Saint-Antoine. On communiquait d'un étage à l'autre par un large escalier en colimaçon. Je n'y suis jamais entré seul. J'accompagnais ma mère qui se grisait de rêve, marchant telle une princesse sur l'authentique tapis rouge, dévoré en dessous par des seaux d'eau de lessive. Moi, de 11 ans, j'observais la multitude de nuages cachant la vie réelle, la vie unique. Aujourd'hui encore, je ne me sens pas un apôtre de l'observation minutieuse du ciel et d'autrui. Et hier, peut-être, j'achetais, je volais, des cartes postales reproduisant des œuvres de Bonnard, Matisse et Georges Braque. J'avais besoin de beauté, j'avais besoin d'admirer. C'est à cette époque que je me mis à écrire dans le métro mes premiers poèmes mécaniques. Les dernières marches de l'escalier de la station Féderbe-Chaligny à peine franchies, je me précipitais sur le kiosque et m'emparais de tous les titres. Le Parisien libéré, François, Paris Presse, L'Humanité, L'Aurore, pour retravailler les mots, les essorer, les tordre, eux qui s'étalaient là comme autant de blessures et de raisons d'espérer. Ne cherchez pas à me faire oublier l'élan qui fut le mien d'emblée vers la beauté ouvrière. Dès lors, le quartier tout entier changeait de forme et je me croyais incandescent. Que la lumière soit, que ce jeune homme, cet enfant plutôt, mêle avec succès l'écriture et la fidélité à une pensée politique qui commençait à apparaître dans sa vie. Voilà un fragment, plutôt au début de ce texte « L'enfant rouge » de Franck Venaille au Mercure de France. Et c'est Jean-Christophe Brianchon qui commence à nous en parler.
Oui, bah, c'est un livre qui commence par cette phrase « Ensuite, je suis parti à la recherche de mon enfance ». Et c'est exactement ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que jamais l'auteur ne considère qu'on n'est pas avec lui depuis les origines et qu'on ne sera pas avec lui jusqu'à la fin. Il nous emmène dans un tourbillon total qui parfois est un petit peu compliqué sur le plan, on va dire, linguistique, sur le plan structurel, quoi. Parce que c'est pas toujours facile à lire, mais il nous emmène dès le départ par la Manche et il nous amène avec lui dans Paris, dans ces rues de Paris qu'il a connues, dans ces rues de son enfance, dans son enfance même au sens plus large du terme, parce que là, justement, cette formule qu'il utilise, moi, enfant de 11 ans, lui permet...
Moi de 11 ans,
lui permet à la fois de nous raconter cette enfance, mais aussi lui-même de discuter avec lui enfant. Donc il nous emmène à la fois dans ses rues, à la fois dans son enfance, à la fois dans ce qu'il est aujourd'hui et dans une certaine idée de la littérature et de la poésie qui voudrait que ce livre puisse être éventuellement une manière de surpasser, de tuer un temps qui de toute façon n'est plus un temps à la fois politique et un temps familial, puisqu'il est aussi beaucoup question de politique, de croyances politiques, donc en l'occurrence de croyances dans les idéologies communistes et socialistes qui peut-être aujourd'hui auraient disparu ou auraient moins... moins raison d'être, en tout cas chez certaines personnes. Et donc il nous emmène à la fois dans la mort de cette enfance, dans la mort de ce temps politique, dans la mort d'un Paris qui n'est plus, mais où à la fois, de toute façon, par cette littérature, entre autres, tout continue à vivre, justement. Donc c'est une certaine idée de la littérature et qui est maniée quand même particulièrement remarquablement. Vous disiez qu'il était connu pour ses ouvrages, enfin pour sa poésie surtout. On retrouve ici tout ce qui fait la poésie de Franck Venaille, je pense, au détour de certaines phrases. On n'est pas du tout dans une prose, dans un roman classique. Il est vraiment question de poésie. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Pierre Guyotat, entre autres, à l'Idiotie qu'on a pu lire en début d'année, mais aussi à Par les fleuves qui vont de Antonio Lobantunes, qui est pareil, une espèce de dérive comme ça. Il y a une réelle poésie qu'on retrouve ici, qui fait de ce livre bien plus qu'un roman.
Florent Georgesco sur L'Enfant Rouge, Franck Venaille.
Oui, en fait, ça me paraît encore plus simple. C'est de la poésie, c'est ouais. Ça, de la poésie de Franck Venaille. Non, mais vraiment, ouais. C'est un des très très grands prosateurs de la poésie ou poète en prose. Venaille, la descente de Lescaut, par exemple, est un très très grand livre. Et c'est par là. Vous parliez de la difficulté du texte. C'est vrai que si on veut essayer de suivre quelque chose, on souffre. C'est très simple, aller, ouais. Il faut savoir d'emblée où l'on va, c'est-à-dire nulle part, c'est-à-dire dans des éclats de sa vie, dans des éclats de sa langue, dans cette manière heurtée et découpée, et comme c'est presque du cut-up dans la structure des paragraphes et des pages. Il suffit de savoir qu'on n'est pas là pour qu'il nous raconte un truc, mais pour vivre, pour entrer dans l'immédiateté des sentiments et des images de mémorielles, des souvenirs avec lesquels il joue. Il s'agit d'être empirique, d'être dans l'immanence absolue à ce qu'il dit, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il reste de ce qu'il a vécu. Si on sait qu'on doit ainsi glisser sur un toboggan et sauter en l'air à chaque bosse, on lit ce livre extrêmement facilement, on est extrêmement pris dans un mouvement pur. Et c'est un des derniers, enfin, j'étais particulièrement triste aussi de la mort de Venaille. Pour des raisons presque historiques, c'était un des derniers grands d'une certaine génération française qui a été très active, notamment autour des années 70, qui a de cette manière, au fond, réinventé le lyrisme par la destruction de l'ordre de la prose, par le mouvement à l'intérieur de la prose. Et Venaille est vraiment, particulièrement dans cette génération, un des grands, très grands poètes lyriques. Et la redéfinition complète du lyrisme qu'il opère, mais il y avait beaucoup de gens autour de lui pour faire ça. Il était une sorte de dernier représentant. On peut penser à notre ami, vous parliez du rôle de Venaille dans cette radio. On peut penser aussi à Mathieu Bénézé, dont il a été très proche.
Claude Royer-Journoux, à quelques autres. Oui,
à quelques autres, évidemment. Il y a toute cette sorte de bande qui avait toute, d'ailleurs, ce rapport, à travers notamment la revue Action Poétique, avec le communisme, avec le parti communiste lui-même.
Une poésie ininterrompue sur France Culture.
Oui. Enfin, il y a un très, très, très grand passé. Et cette maison était au cœur de ce passé, en effet. Et on retrouve n'épure de tout cela à travers la force extraordinaire de ce texte. Et vraiment, c'est magnifique qu'il ait pu finir ce texte avant de mourir.
Lucille Comeau, regard sur ce livre de Franck Venaille.
Oui, en effet, ce qui frappe, c'est vraiment le lyrisme et qui regarde vraiment vers de grands aînés dans la manière d'envisager la ville et d'envisager Paris, en l'occurrence, et un arrondissement. Puis il cite beaucoup Baudelaire, il cite aussi Verlaine, et il y a quelque chose évidemment de ça, d'une sorte de modernité lyrique qui date malgré tout aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, le livre est déjà, vous disiez, c'est pas classique. Moi, je trouve que c'est assez classique, finalement, comme écriture et comme type de poésie.
Bah, et ça s'articule. Que fait la poésie aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
On pourrait s'interroger sur sur une fécondité aussi forte que celle
ça ne veut pas dire que ce n'est pas fécond. Ça veut dire que ça s'inscrit dans une histoire et que ça rend le livre, d'une certaine manière, historique aussi, dans l'histoire de la poésie. Absolument. Ce n'est pas du tout une critique négative. Moi, ça m'a beaucoup ému, et je rejoins ce que vous disiez, Jean-Christophe, cette espèce de tension entre le récit de soi qui est quand même le récit d'une enfance articulée en permanence avec une angoisse et une tristesse quand même assez fondamentale et absolue. C'est assez rare des récits d'enfance aussi teintés de sombre et de mort et de motifs de suicide qui revient en permanence et du clivage, etc. A en effet une écriture qui est un élan absolu et dont on a l'impression même que parfois il doit le réprimer avec une ponctuation. Il y a un jeu avec les points, avec la ponctuation, avec le hachage, le hachement, je ne sais pas comment on dit, des phrases qui est comme une sorte de manière de retenir les impressions parce que sinon on a l'impression que ça pourrait aller trop vite. Et là, il y a une vitalité de l'écriture.
Il le fait ponctuellement d'ailleurs.
C'est, mais c'est très très beau ça. C'est
il faut
des
arrêter
passages
par
qui, voilà,
moment, en effet.
Arrêter la phrase pour laisser quand même dans l'esprit du lecteur l'impression se faire parce que sinon ça pourrait aller à une vitesse folle. Et moi, je trouve que la complexité tient pas tant justement à l'écriture que quand même à en effet une étrangeté absolue pour nous, je crois, de ce pari-là, du pari ouvrier et également du parti, parce que toute la complexité politique qui est à l'œuvre et qui s'articule totalement au projet d'écriture, mais qui est ce qu'était le Parti communiste à ce moment-là, ce que c'était que d'avoir cet âge-là et d'adhérer, de distribuer l'UMA et de commencer à connaître l'institution du Parti communiste, c'est quelque chose que moi j'appréhende très peu et qui est là abordé d'une manière totalement éclatée qui fait vraiment résonner de manière extrêmement particulière, je crois, pour nous.
Oui, moi j'adore que c'est une des dimensions qui m'a le plus passionné dans ce livre. Alors, vous avez évoqué Idiotie, mais c'est vrai que vraiment tout du long, je me suis dit qu'il y avait une sorte de gémellité entre ce livre de Guyotat et celui de Franck Guenaï, parce qu'il y a quand même pas mal des mêmes années et surtout des mêmes enjeux, c'est-à-dire que c'est des auteurs importants de l'écriture, de la littérature française qui reviennent sur ce qui les a constitués fondamentalement dans leurs plus jeunes années. Et le fait d'advenir comme être politique, c'est vraiment alors ça revient et j'avais pas saisi cette dimension-là.
Il y a aussi ailleurs dans l'œuvre de Venaille le point commun de la guerre
d'Algérie, bien sûr,
le texte magnifique Algeria qu'il a publié.
Donc vraiment, il y a des échos très très forts, mais vraiment cette constitution de l'être politique, c'est ce qui m'a le plus frappé et finalement ce que j'avais le moins saisi auparavant de Franck Venaille.
Sachant, c'est pas dans le livre, c'est pas un livre autobiographique au sens du récit, comme on le disait, mais on peut rappeler que Venaille a été membre du Parti communiste et il l'a quitté, comme toute personne raisonnable, en 1968. Et il y a l'aspect de contestation du stalinisme aussi dans ce livre-là, dans L'Enfant Rouge. Il y a quelques figures de l'autoritarisme communisme et de l'embrigadement. Et justement, il y a aussi là une dialectique dans cet élan politique qui est au cœur du livre, une dialectique de dépassement toujours de l'engagement contingent. Il y a cette figure, il y a ce personnage du merle qui est tout le long du livre. Il y a d'ailleurs une photo au début du livre où un merle apparaît rue Paulbert. Le merle qu'il appelle Avril, qui est une incarnation de cette force d'arrachement. Il regarde la vie humaine de plus loin avec une sorte de pitié, d'ailleurs, de pitié d'oiseau pour l'humanité et aussi de dégoût de la fermeture communiste que Venaille rencontre aussi à l'intérieur du parti. Il y a une dialectique du premier secrétaire et du maire le moqueur, en quelque sorte, qui est très belle aussi.
Vous dites comment ?
Oui, je trouve aussi assez intéressant la manière dont le livre dialogue avec une autre forme de littérature qui est la littérature, disons, de Bordienne, en tout cas, une forme de psychogéographie, la manière de lier une expérience singulière absolue et l'épuisement d'un lieu. On sent qu'il travaille un petit peu aussi au bord de ça, mais jamais dedans. Et j'y vois aussi quelque chose de politique. C'est une manière de justement ne pas intégrer ces formes-là non plus, qui étaient des formes de l'époque. Mais oui, c'est vrai que c'est un livre très intéressant.
Jean-Christophe Bouillanchon, un dernier mot.
Oui, d'épuiser l'expérience personnelle, mais aussi d'épuiser du coup le réel. C'est, je trouve qu'il entretient du coup un rapport avec le réel qui est très particulier, y compris par le biais de la politique, et qui moi m'a particulièrement passionné parce que il s'ancre à la fois dans un réel qui est de toute façon très pratico-pratique, concret, celui d'effectivement distribuer l'UMA à la sortie du métro, et en même temps ces mots et sa structure ne font que de s'évader en permanence du réel. Donc il y a une espèce de tension permanente entre ce réel dans lequel il vit et finalement ce qu'il ressent, qui de toute façon ne l'amène qu'à s'en échapper, ou de toute façon pour le survivre ne peut que l'amener à s'en échapper, qui est absolument superbe.
Mais il s'évade, vers un réel plus intense. Et c'est là que la poésie est en fait le centre du livre, au-delà de la politique. C'est qu'il s'échappe à ce réel transformé par l'idéologie et devenu pesant. Et encore une fois, la figure de l'oiseau dit assez puissamment les choses. Il va vers plus de réel, plus d'intensité. Il n'y a que la poésie pour ça. Un jour d'ailleurs, Venaille a abandonné l'action politique sous quelque forme que ce soit, et c'est entièrement consacré, il l'a fait pendant les dernières décennies de sa vie, à la poésie. Ça raconte ça aussi, ce livre.
Lisez Franck Venaille, lisez L'Enfant Rouge, publié au Mercure de France. Mais ce serait donc l'heure du jeu de la dispute. Et ce soir, c'est Clémence Marie qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir avant de nous donner sa réponse. Nous attendions fébrilement. Clémence ?
Alors la question était, à qui doit-on le film intitulé « Monsieur sorti ce mois-ci » ? Et la réponse était Laurent Delahousse.
Gagner ce soir des invitations pour le film. Non mais c'est vrai, il y a eu deux films, monsieur. On a fait gagner des places pour l'autre film, hein, pas pour celui de Laurent Delahousse. Hein.
Vous me rassurez.
Je sais pas parce que je l'ai pas vu, donc je pourrais pas me.
C'est pas le genre de la dispute.
On fait gagner ce soir des invitations pour le film Mireille, ma petite sœur. C'est un film d'animation de Mamoru Hosada, qui est sorti hier sur les écrans, me semble-t-il. Quelle est la question, Clémence ?
Quel est le nom du premier long métrage de Mamoru Hosada ?
Eh bien, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par courriel. Vous indiquez vos coordonnées postales, ce sera plus simple pour faire parvenir vos places. Et vous nous envoyez tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page de la dispute, et un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions. Tout simplement vous abonner au podcast de notre émission. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une dispute consacrée au cinéma avec, à nouveau, joie, Lucille Comeau, Florence Colombani et Muriel Jaudet à notre affiche Wildlife, une saison ardente. Je ne vais pas dire les bons noms, mais ça a changé entre temps. Voilà, c'est comme ça. C'est un film de Paul Dano, L'homme fidèle de Louis Garrel et puis Le retour de Mary Poppins de Rob Marshall. Enfin, le coup de cœur de Lucille Comeau pour Roma d'Alfonso Cuarón.